RCF.
Nous sommes heureuses de vous retrouver sur RCF pour vivre et créer en couleur avec Sylvaine Rer, qui anime les ateliers d'écriture à mots ouverts. Bonjour Sylvaine.
Bonjour Cathy, bonjour tout le monde.
Et le peintre Béatrice Vielle-Collet. Bonjour Béatrice.
Bonjour à tous et bonjour Cathy Béchamel, notre chef d'orchestre.
Nous avons les mois précédents parlé du multicolore, c'est-à-dire de la lumière qui réunit toutes les couleurs, comme nous le voyons dans l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur trois couleurs, rouge, vert et bleu. Et tout d'abord, le rouge et le bleu. Pourquoi associer ces deux couleurs, Béatrice ?
Eh bien, tout simplement parce que l'histoire les associe. Le bleu va succéder au rouge, mais pendant longtemps, le rouge est la couleur. Parce que l'ocre rouge est utilisé dès les origines par l'homme de la préhistoire, c'est simple pour lui. Il lui suffit de se pencher pour ramasser la terre rougie par l'oxyde de fer.
Jean-Marie Gustave Le Clézio décrit cette terre rouge riche de créativité, ici la terre d'Afrique, dans son roman des origines, Onitsha. Le soleil cuisait la terre rouge. C'est Boni qui avait montré à fin temps. Il allait chercher la terre la plus rouge au bord de l'Omeroun et il la rapportait toute mouillée dans un vieux pantalon dont il avait noué les jambes.
Dans une clairière, à l'ombre d'un bosquet, les enfants découpaient la terre et fabriquaient de petites statuettes qu'ils mettaient à sécher au soleil. Ils faisaient des vases, des assiettes, des tasses et aussi des figures, des masques, des poupées. Fintan faisait des animaux, des chevaux, des éléphants, un crocodile.
Boni faisait plutôt des hommes et des femmes, debout sur un socle de terre, avec une brindille pour colonne vertébrale et de l'herbe sèche pour les cheveux.
Alors cette couleur rouge que l'on voit dans ce beau texte, elle va dominer jusqu'au début de l'époque romaine et son importance est telle que teindre une étoffe, c'est forcément lui donner une couleur rouge.
Absolument. Dans la guerre de Troie n'aura pas lieu, Jean Giraudoux campe d'ailleurs une Hélène qui ne voit l'avenir qu'en rouge vif.
Choisissez-vous le départ, oui ou non ?
Ne me brusquez pas. Je choisis les événements comme je choisis les objets et les hommes. Je choisis ceux qui ne sont pas pour moi des ombres. Je choisis ce que je vois.
Je sais, vous l'avez dit, ce que vous voyez coloré. Vous ne vous voyez pas rentrant dans quelques jours au palais de Ménélas ?
Non, difficilement.
On peut habiller votre mari très brillant pour le retour.
Toute la pourpre de toutes les coquilles ne me le rendrait pas visible.
Voici ta concurrente, Cassandre. Celle-là aussi lit l'avenir.
Je ne lis pas l'avenir, mais dans cet avenir, je vois des scènes colorées, d'autres ternes. Jusqu'ici, ce sont toujours les scènes colorées qui ont eu lieu.
Nous allons vous remettre aux Grecs en plein midi, sur le sable aveuglant, entre la mer violette et le mur ocre. Nous serons tous en cuirasse d'or à jupe rouge, et entre mon étalon blanc et la jument noire de Priam, mes sœurs en péplum vert vous remettront nues à l'ambassadeur grec, dont, je devine, au-dessus du casque d'argent, le plumet amarante. Vous voyez cela, je pense.
Non, non, pas du tout. C'est tout sombre.
Vous doutez-vous que votre album de Chromos est la dérision du monde ? Alors que tous, ici, nous nous battons, nous nous sacrifions pour fabriquer une heure qui soit à nous, vous êtes là, à feuilleter vos gravures prêtes de toute éternité. Qu'avez-vous ? À laquelle vous arrêtez-vous avec ces yeux aveugles ? À celle sans doute où vous êtes sur ce même rempart, contemplant la bataille. Vous la voyez, la bataille ?
Oh oui.
Et la ville s'effondre ou brûle, n'est-ce pas ?
Oh oui, oui, c'est rouge vif.
Et Paris ? Vous voyez le cadavre de Paris traîné derrière un char ?
Ah, vous croyez que c'est Paris ? Je vois en effet un morceau d'aurore qui roule dans la poussière. Un diamant à sa main étincelle. Mais oui, je reconnais souvent mal les visages, mais toujours les bijoux. C'est bien sa bague. Comme nous l'a dit Hélène, en Occident, autour de la Méditerranée, la pourpre est extraite du murex. De nombreux passages de l'histoire naturelle de Pline l'Ancien nous décrivent par le menu la pêche au filet de ce petit coquillage et l'art d'en tirer la précieuse teinture.
Mais oui, la pêche de cet escargot marin est bien compliquée. Et autre difficulté, le pigment que l'on extrait du murex provient de sa glande branchiale, qui est minuscule. C'est pourquoi, quand elle apparaît en Orient, la garance va dominer jusqu'au XIIIe siècle. Parce qu'il est très facile de cultiver cette grande herbe, et ses racines, en plus, ont de grandes propriétés tinctoriales.
Mais le rouge n'est pas resté seul. Est-ce que son succès ne s'explique pas aussi par la place qu'il occupe dans un système symbolique ?
Tout à fait. Les systèmes de représentation des sociétés anciennes sont basés sur la couleur. Et jusqu'au Moyen-Âge, la symbolique s'organise autour de trois pôles. Le rouge et ses deux contraires. Le noir, qui est le sale, et le blanc, qui veut dire le pur, auquel on ajoutera ensuite l'or.
N'oublions pas qu'à l'origine, en Orient, le bleu se dit azur, du persan qui signifie à la fois le minerai, azurite, et sa couleur. Le bleu a été très en vogue dans la Haute Antiquité, en Perse, en Mésopotamie, en Égypte, turquoise, lapis-lazuli. L'azur s'est ensuite transmis à l'Occident médiéval via l'art islamique. C'est celui des faïences, des céramiques, des coupoles des mosquées, bleu que l'on retrouvera dans les fameux azulejos portugais.
Effectivement, le plus ancien pigment synthétique a même été créé en Égypte. En 2500 avant Jésus-Christ, c'est le bleu céruléum. On l'a obtenu en pulvérisant un verre cuit avec de la limaille de cuivre. Mais comme on l'a vu lors de notre précédente saison, ces pigments sont très rares, donc très chers, difficiles à transformer et peu stables.
Quand même, comment se fait-il que le bleu reste si longtemps une couleur de deuxième plan ?
Alors on peut l'expliquer de trois façons. Tout d'abord, la Grèce ignore le bleu. Aucun mot ne le désigne. Bah, pour autant, le bleu existait.
Oui, mais avec Homère, la mer n'est jamais bleue. Il l'a dit pourpre, violette ou lie de vin, sombre, scintillante, parée de mille reflets, ce qui ne signifie pas que les Grecs anciens ne voyaient pas le bleu. Des thèses récentes expliquent comment les épithètes choisies sont culturelles et correspondent à un état de la mer plus qu'à un réel coloris. Ainsi, pourpre représente la puissance et la noblesse de Poséidon. Lie de vin évoque la profondeur dangereuse et imprévisible.
En effet, l'époque classique parle plutôt de lumière, du sentiment de la couleur. Vous parliez de la mer, Sylvaine. C'est vrai, il était moins question de sa couleur que de sa pâleur, glaucos, ou de son obscurité, kianéos. Mais il faut se rappeler qu'à cette époque, on ne croyait pas que des couleurs constituaient la lumière.
Voici comment Marguerite Yourcenar, dans sa langue d'une beauté et d'une pureté toute classique, redonne à la mer sa couleur. Il s'agit d'un extrait de son conte bleu.
Les marchands venus d'Europe étaient assis sur le pont, devant la mer bleue, dans l'ombre indigo des voiles largement rapiécées de gris. Ils débarquaient au crépuscule sur un rivage pavé de marbre blanc. Des veines bleuâtres couraient à la surface des grandes dalles de pierre qui avaient autrefois servi au revêtement des temples.
Des inscriptions bleues tremblaient sur le dôme blanc des mosquées, comme des tatouages sur un sein délicat, et de temps à autre une turquoise entraînée par son propre poids se détachait des lambris et tombait avec un bruit sourd sur des tapis d'un bleu moelleux et fané. Sitôt levée, la lune se mit à errer comme une goule sur les tombes coniques du cimetière. Le ciel était bleu comme la queue écaillée d'une sirène, et le marchand grec trouvait aux montagnes dénudées qui bordaient l'horizon une ressemblance avec les croupes bleues et rases des centaures.
Alors on peut expliquer aussi cet échec du bleu par le fait que l'Empire romain a peur du bleu, parce qu'il est associé aux ennemis, les barbares, qui se teignent le corps en bleu. Plusieurs auteurs romains y font allusion, n'est-ce pas Sylvaine ?
Oui, il est amusant de noter que le mot bleu nous vient du germain par l'allemand blau. Selon le poète Ovide, ces germains teignaient leurs cheveux blancs avec du bleu de guêde. Dans la guerre des Gaules, César rapporte que les Bretonnes se peignent le corps en bleu, information reprise par Pline qui associe cette peinture à leur sarabande sexuelle. Voilà pourquoi à Rome, les yeux bleus avaient très mauvaise réputation.
Oh oui, vraiment très mauvaise réputation. Ce bleu signifie la disgrâce, le deuil, la mauvaise vie pour les femmes et chez les hommes, il est efféminé. Alors, la troisième raison de l'insuccès de ce bleu, c'est que les marchands de Garance luttent par tous les moyens contre le bleu quand il apparaît. Et notamment en Allemagne, ils demandent au maître verrier de représenter le diable ou l'enfer en bleu pour qu'il fasse peur.
Il faut dire que depuis l'Antiquité et aujourd'hui encore, le rouge est et reste la couleur du faste et du luxe. Tapis rouge, rideau rouge du théâtre. Et du luxe à la luxure, il n'y a que quelques lettres, ce qu'illustre cet extrait de la Chambre rouge de Françoise Malé-Joris.
La chambre était rouge, d'un rouge véhément. Les murs étaient couverts d'une soie rouge passée. Le lit à baldaquin, soutenu par des cariatides dorées, était tendu de velours rouge. Le couvre-lit était grenat, avec de gros pompons. Le fauteuil aurait pu passer pour cerise, n'eût été son état d'usure et de saleté, qui lui donnait l'air d'un animal bizarre, atteint de pelade. Mais on pouvait affirmer hardiment que les rideaux avaient des tons rubis, et il s'en dégageait cette surprenante odeur de peluche, de fleurs fanées et de poussière, qui règne également dans les maisons de passe et dans les salons des vieilles demoiselles.
« Voilà la chambre, » dit Clara Weiss, non sans orgueil. « C'est la plus belle, monsieur. Vous ne trouverez cela nulle part ailleurs à Gers. Ce n'est pas chez les Dekkers que vous en auriez eu une pareille. Aussi, je ne la donne qu'à des gens importants, des magistrats, des fonctionnaires, des médecins, il en vient, mais oui, ce n'est pas une clientèle de pêcheurs et de marins que j'ai, moi, monsieur. Et c'est bien parce que vous êtes parisien que je vous donne ma chambre rouge. Vous n'irez pas raconter après que vous n'avez pas trouvé ici tout le confort. »
Bon, disons-le, malgré cette ambivalence, le rouge demeure la couleur de la fête. Parce qu'il faut se souvenir que, jusqu'au XIXe siècle, la plus belle robe de la femme, celle du mariage notamment, est rouge. Et ça revient en force.
Alors revenons au bleu. Enfin, au Moyen-Âge, le bleu prend sa revanche et domine en maître.
Oui, le bleu est alors tout naturellement associé au ciel, à la pureté. Et cette victoire du bleu s'explique facilement. C'est, somme toute, la victoire des prélats chromophiles. Les couleurs envahissent progressivement l'espace religieux, social et artistique. Le bleu s'impose dans les vitraux et la peinture. En Occident, on se met à peindre en bleu les ciels qui étaient alors noirs, blancs, dorés ou rouges dans l'art byzantin.
Rappelez-nous la position de ces prélats.
Eh bien, les prélats chromophiles adoptent la conception des Clunisiens. Pour eux, la couleur représente le divin. Ils s'opposent aux prélats chromophobes qui, comme les cisterciens, sont contre la couleur. Elle n'est pour eux qu'un artifice futile.
C'est logique. On sait que le mode de vie des Clunisiens n'exclut pas la splendeur. Tandis que les cisterciens sont plutôt adeptes de l'austérité.
Tout à fait.
Ce bleu religieux me rappelle l'émerveillement de Proust devant la chapelle de Giotto à Padoue. Il écrit dans La Fugitive « La voûte entière et le fond des fresques sont si bleus qu'il semble que la radieuse journée ait passé le seuil, elle aussi, avec le visiteur, et soit venue un instant mettre à l'ombre et au frais son ciel pur. Son ciel pur, à peine un peu plus foncé d'être débarrassé des dorures de la lumière. Dans ce ciel transporté sur la pierre bleuie, volaient des anges que je voyais pour la première fois. »
Oui, alors justement, cette prospérité du bleu correspond au culte croissant de la Vierge. Le bleu devient la couleur mariale. Il tient lieu d'attributs du deuil en lieu et place des couleurs sombres ou rouges de sa robe. Le bleu devient divin, il symbolise le renoncement aux valeurs matérielles. Alors bien sûr, on donne au roi d'onction divine la couleur bleue.
Oui, Philippe Auguste donne la couleur bleue au royaume de France, blason fleur de lys sur champ d'azur. Puis au XIIIe siècle, son petit-fils Saint-Louis, en vouant le royaume à la Vierge, consacre ainsi le bleu à la fois royal et divin.
Et tout naturellement, roi et prince s'habillent en bleu, et par imitation du blason de la maison de France, beaucoup de familles introduisent l'azur dans leurs armoiries.
Mais le bleu ne devient réellement hégémonique qu'au XIXe siècle, lorsque les romantiques, et d'abord les romantiques allemands, se prennent d'un amour fou pour cette couleur. Hölderlin chante « En bleu adorable fleurit le toit de métal du rocher, alentour plane un cri d'hirondelle, autour s'étend le bleu le plus touchant. » Avec les souffrances du jeune Werther, roman paru en 1774, Goethe déclenche un véritable raz-de-marée de bleu. À travers toute l'Europe, pendant 10 ans, les jeunes gens veulent s'habiller de bleu, comme le héros, et l'expression « se faire faire un habit à la Werther » passe dans le langage courant. Un autre romantique allemand, Novalis, immortalise l'expression « fleur bleue » dans un roman qui nous semble aujourd'hui, il faut bien l'avouer, un peu mièvre. Après ces excès des romantiques, l'idéal parnassien gardera le bleu en ligne de mire. « Je suis hanté, L'azur, 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 clamait Mallarmé.
Oui, c'est vrai, les arts ont tous participé à la mode du bleu. On pense bien sûr au cavalier bleu, Der Blaureiter, que fonde Kandinsky à Munich en 1909. Ce mouvement a pris ce nom, eh bien, tout simplement parce que les peintres expressionnistes de ce groupe aimaient tous le bleu. Et il faut bien dire qu'aujourd'hui encore, ce culte du bleu trouve son écho, puisque c'est en Europe occidentale la couleur la plus portée.
Oui, tout le monde s'enthousiasme pour cette couleur très consensuelle. Et c'est du reste pourquoi l'emblème des organismes internationaux est bleu, couleur de la paix. Écoutons Christophe, qui la célèbre joliment avec les mots bleus.
Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Et je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux.
Pour ceux qui nous rejoignent sur RCF, nous tentons de vivre et créer en couleur. Et aujourd'hui précisément avec le rouge et le bleu. En écoutant chanter Christophe, j'ai l'impression qu'on est toujours avec ces mots bleus. Je veux dire cette fascination du bleu. La princesse aux yeux bleus, la blonde aux yeux bleus.
À ce propos, je me souviens que l'écrivaine américaine Toni Morrison, prix Nobel de littérature 93, raconte dans son livre « L'œil le plus bleu » la douleur d'une petite fille noire qui croit que pour être belle, elle doit avoir des yeux bleus.
D'abord le rouge, maintenant le bleu. Alors la question se pose, rouge, bleu, couple ou contraire?
Eh bien pour Picasso, quand je n'ai pas de bleu, je mets du rouge.
Oui, Picasso a de l'humour, mais il est vrai que dans le domaine artistique, leur mariage est très heureux. Ce mélange est très facile et ça donne un beau violet que l'on peut nuancer à l'infini. Si je vous demande de qualifier un violet, spontanément, vous allez me dire, il est plus clair, il est plus foncé. Mais si on observe mieux, on voit, on ressent mieux. Si ce violet va plus vers le bleu, il s'alourdit, il se fait plus profond, plus grave. Si le mélange penche plutôt vers le rouge carmin, alors le violet s'éveille et s'égaye. C'est plus ou moins ce que nous explique Goethe dans son traité des couleurs.
Et rappelons que les impressionnistes sont les premiers à figurer l'ombre en bleu ou violet. Ils abandonnent le noir parce que l'ombre est toujours colorée, même un petit peu. Dans la nuit totale, aucune lumière, donc aucune couleur. J'ai bien compris, Béatrice ?
Eh oui, c'est tout à fait ça. Les impressionnistes ont entendu le physicien Chevreul. Les couleurs agissent les unes sur les autres parce que toute couleur perçue appelle sa complémentaire. Donc, le noir n'existe pas. Tout est coloré. La peinture des impressionnistes exprime un paysage en perpétuel changement. C'est pour ça qu'ils veulent peindre dehors, sortir des ateliers où la lumière ne rentre pas.
Quel serait le meilleur exemple, selon vous, Béatrice ?
Monet, son objectif est de capter l'impression fugitive d'une scène extérieure. Il a voulu saisir les variations de la lumière sur la nature. Quand il décide, par exemple, de peindre une série sur les meules de foin en Normandie, au début, il pense ne réaliser que deux tableaux. Mais ces meules se transforment au long de la journée avec les changements de lumière en fonction des heures, des saisons, du climat. Et il finit par les peindre 15 fois. Pareil pour la fameuse série des nymphéas qui compte 50 toiles.
Mmh. Bon, alors pour faire écho dans le domaine littéraire, voici un extrait du Voyage en Italie où Taine décrit les changements que provoquent les variations de la lumière sur la lagune de Venise. Dans ce mouvement continu, tous les tons se transforment et se fondent. Les fonds noirâtres ou couleur brique sont bleuis ou verdis par la mer qui les couvre. Selon les aspects du ciel, l'eau change elle-même et tout cela se mêle parmi des ruissellements de lumière, sous des semis d'or qui paillettent les petits flots, sous des tortillons d'argent qui frangent les crêtes de l'eau tournoyante. Le sens de la vision rencontre un autre monde.
Quelle beauté dans ce que vous venez de nous lire. Renoir n'a-t-il pas eu la même démarche en matière de nu ?
Exactement. En somme, Renoir fait pour les êtres humains ce que d'autres avaient fait pour le paysage. Monet et Pissarro avaient peint la neige au soleil et les ombres portées étaient bleues. Renoir, dans son bal à Montmartre, donne une teinte violette au personnage à l'ombre du feuillage. Aujourd'hui, ça ne nous surprend pas, mais en 1877, les ombres violettes étaient une véritable innovation.
Pourtant, les fauves pousseront plus loin ce langage de la couleur, n'est-ce pas ? On est à l'opposé de l'idéal classique. Prenons Ingres. Il voyait dans la couleur la partie animale de l'art.
Oui, vraiment, parce que pour les fauves, c'est tout le contraire. Les couleurs sont des bâtons de dynamite. J'ai par exemple en tête la peinture que Chagall a faite de son atelier en 1910. Un tableau explosif. La dominante est verte, elle envahit les murs, les cadres, le tapis et le lit, si bien qu'on confond complètement les plans verticaux et les plans horizontaux. Conséquence, il n'y a aucune profondeur.
Pourtant, c'est Matisse que l'histoire retiendra comme le chef de file des fauves.
Et oui, parce que pour Matisse, la couleur était essentielle.
Je sens par la couleur, c'est donc par elle que ma toile sera toujours organisée, disait-il.
Oui, il aura su, lui aussi, vivre et créer en couleur. Il diversifie son art, notamment en réconciliant couleur et dessin grâce à ses gouaches découpées. Il y met le bleu en vedette, il exacerbe sa force par la simplicité des formes.
Et la chapelle du Rosaire avance sera, selon ses propres mots, l'aboutissement de toute une vie de travail.
Alors, dans les autres domaines, comment fonctionne ce couple rouge-bleu, et particulièrement en littérature, Sylvaine ?
Eh bien, très très bien. Tenez cette description du rideau cramoisi dans Les Diaboliques de Jules Barbey d'Aurevilly, par exemple. Il y est question d'une scène de séduction. Je plantais sur ses belles lèvres rouges et érectiles le robuste et foudroyant baiser du désir triomphant et roi. Je la portais, toujours collée à moi, sur ce canapé de maroquin bleu, mon gris de Saint-Laurent, depuis un mois que je m'y roulais en pensant à elle, et dont le maroquin se mit à voluptueusement craquer sous son dos nu, car elle était à moitié nue.
Rouge et bleu se trouvent aussi réunis sur notre emblème national, même si en politique, gauche et droite les opposent. Et l'on sait que notre drapeau a d'abord été cocarde.
Et oui, c'est Lafayette, après la prise de la Bastille, qui oblige Louis XVI à porter la cocarde tricolore.
En effet, le jeune général Lafayette, qui a participé à la guerre d'indépendance des États-Unis, aurait suggéré que l'on joigne le bleu et le blanc des indépendantistes américains au rouge des révolutionnaires parisiens. Le drapeau tricolore unit donc le bleu de France, le blanc de la monarchie et le rouge de la Révolution.
Puis à l'automne 1790, l'Assemblée constituante décide que tous les vaisseaux français porteront un pavillon tricolore dans le sens vertical, puisque le pavillon néerlandais flottait depuis un siècle déjà avec ces mêmes couleurs à l'horizontale.
Adoption qui est attestée par un discours du député Mirabeau où il dit « Ces couleurs glorieuses, ce signe de ralliement de tous les amis, de tous les enfants de la liberté, de tous les défenseurs de la Constitution. »
Les événements du 11 janvier ont été l'occasion de faire revivre ce symbole de ralliement Le drapeau tricolore était présent dans les marches républicaines. Mais il faut évoquer aussi l'écharpe tricolore, symbole des élus communaux et des parlementaires.
Bleu doit alors être près du col ou parlementaire. Et le rouge est près du col. Mais dans tous les cas, ça fait du bleu-blanc-rouge.
Je me souviens avec émotion de nos splendides marins en costume bleu, béret blanc, pompon rouge. Bonheur assuré pour celles qui le touchaient. Alors justement, que peut-on dire sur le plan symbolique ?
Superman, habillé de rouge et bleu, réunit en lui la force et la justice.
Les fils électriques rouge phase et vert neutre.
Oui, je pense aussi au tarot de Marseille, dont les personnages sont principalement habillés de rouge, qui symbolise l'action, et de bleu, la méditation.
On pourrait continuer cette énumération, mais je vous propose de reprendre notre conversation lors de notre prochaine émission. Et en conclusion aujourd'hui, Béatrice.
Eh bien, pourquoi pas, d'ici là, nous inspirer de ces jolis mots d'André Chédide.
À force de renaître, auréolé de rêves.
À force de s'émouvoir au passage du désir.
À force de s'animer aux couleurs de la vie.
L'amour se perpétue.
Dans l'être.
Et l'infini.